Jean-François Zigel. La preuve par Z. Une émission de France Inter faite à la main et pour les oreilles. Bonjour. La douceur, l'émotion d'une mélodie traditionnelle arménienne. Nous écoutions Sareri Ovin Mernem, en substance que je meurs au vent des montagnes, et c'était chanté et accompagné au violoncelle par la jeune Astrid Cyranocian. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette artiste que j'aime particulièrement, une grande violoncelliste déjà, mais pas que violoncelliste, puisque vous l'avez entendu, elle aime à chanter les mélodies traditionnelles de son pays d'origine. Mais alors pourquoi est-ce que je commence notre émission de rentrée par une telle douceur? Eh bien figurez-vous que cette mélodie a été entendue il y a quelques jours, mardi soir, très exactement, lors de ma troisième Zigel Académie, mon émission sur France 2. Et je me suis dit qu'à l'époque du média global, il était intéressant de se poser la question de la programmation musicale d'une émission de télévision. Comment est-ce qu'on construit une émission de télévision? Comment est-ce qu'on alterne les différentes pièces qui vont la composer musicalement? Quelle différence avec une émission de radio? C'est un peu la question d'aujourd'hui. Et je parlais de média global, puisque vous le savez, de plus en plus, les radios font aussi de la télévision. Les télévisions font de la radio, les journaux se mettent aussi à faire de l'image et du son, et qu'il est probable que d'ici quelques années, il n'y ait plus tant de différence que cela entre une chaîne de télévision, une chaîne de radio et un journal. Donc je me mets à la page et je vous propose aujourd'hui de faire de la radio à la télévision ou de la télévision à la radio, comme vous voulez. Alors première remarque, commencer dans la douceur comme nous venons de le faire une émission de radio, ça ne marcherait pas du tout en télévision. Donc si vous regardez, c'est possible encore pendant quelques jours en replay sur France 2, cette troisième Zigel Academy, vous verrez que ce n'est pas du tout le début de l'émission. On commence toujours une émission de télévision de manière plus rythmée, plus dynamique, pour en quelque sorte s'attacher, fidéliser le téléspectateur qui n'aille pas voire sur la chaîne d'à côté. En radio, c'est différent. Le temps qu'on s'installe, qu'on se détende, qu'on entre dans l'émission, on peut y entrer avec une telle douceur. Et puis bien sûr, dans une émission de musique classique, il faut veiller à alterner les découvertes et les pièces plus connues. C'est pourquoi je vous propose, après cette mélodie arménienne, de passer à la Sicilienne de Forêt. Parce que la Sicilienne de Forêt, écrite en 1893, c'est vraiment l'un des tubes du compositeur, l'une de ses pièces les plus connues. Ce qui est drôle d'ailleurs, parce qu'à l'origine, c'était simplement une pièce qui faisait partie d'une musique de scène pour accompagner le bourgeois gentilhomme de Molière. D'où la Sicilienne, qui est une danse pastorale très en vogue au XVIIe et au XVIIIe siècle, on en trouve plein de Bach, Handel, Telemann, une danse que reprend Forêt, une danse qui a eu beaucoup de succès en Europe, sauf en Sicile, puisque cette fameuse Sicilienne, eh bien, on n'en trouve aucune trace en Sicile, ça n'a jamais été dansé en Sicile, mais ça n'a aucune importance, c'est une pièce tellement jolie, tellement charmante, il me semble que ça se déguste comme une crème à la vanille. C'était la jolie Sicilienne de Forêt, interprétée au violoncelle par Astrid Cyranocian, et je l'accompagnais au piano. Donc un extrait de mon émission de télévision diffusée mardi dernier sur France 2, 3e Zigel Academy, puisque, vous l'avez compris, aujourd'hui nous nous intéressons à la construction musicale d'une émission de télévision. Alors après cette pièce extrêmement connue, on pouvait donc s'intéresser à une pièce beaucoup moins connue, une pièce de Nadia Boulanger. Alors Nadia Boulanger, c'est surtout une grande pédagogue de la musique. Elle est connue pour avoir été la professeure d'art Aaron Copland, de Philip Glass, de Daniel Barenboim, de Michel Legrand et même du grand Astor Piazzolla. Et Nadia Boulanger a été tellement connue au XXe siècle que dans un grand film à succès comme Love Story, je ne sais pas si vous connaissez ce film de 1970 avec la musique de Francis Letta, la li la la, la li la li la li la la. Eh bien, l'héroïne principale, Jennifer, qui va mourir à la fin du film d'une leucémie, parce qu'évidemment, si ça n'est pas tragique, ça n'est pas un beau film. Elle voulait aller à Paris étudier avec Nadia Boulanger. Donc Nadia Boulanger, la grande pédagogue, a aussi été à un moment de sa vie compositeur, pas longtemps, parce qu'elle était la sœur de Lili Boulanger, qui a été la première femme à recevoir le fameux prix de Rome à l'âge de 20 ans. Seulement Lili Boulanger est morte en 1918 à l'âge de 24 ans. Nadia Boulanger s'est alors arrêtée pratiquement, définitivement de composer, mais elle nous a quand même laissé quelques pièces, dont trois pièces pour violoncelle et piano. Nous allons en écouter la troisième, qui me fait penser à une sorte de musique de film muet, puisque Nadia Boulanger avait gagné sa vie un moment en accompagnant des films muets. Ce n'est pas complètement absurde de penser qu'il y ait une influence de l'un sur l'autre. Enfin bref, je vous laisse écouter. Troisième pièce en une dièse mineure de Nadia Boulanger, par Astrigue Cyranossian au violoncelle, et je l'accompagne au piano. C'était l'étonnante troisième pièce en une dièse mineure pour violoncelle et piano de Nadia Boulanger, une pièce amusante, burlesque, truculente et qui terminait parfaitement bien cette séquence consacrée à la violoncelliste Astrigue Cyranossian. Alors dans une émission de télévision, on ne cherche pas forcément la continuité, la logique, comme on le fait un peu plus dans une émission de radio. C'est un peu comme dans un repas. L'entrée n'a pas forcément à voir avec le plat suivant. La diversité, le contraste sont des éléments extrêmement importants surtout pour une émission de seconde partie de soirée. Donc j'ai pensé qu'après le violoncelle et après le caractère un peu lyrique, un petit peu chantant de l'instrument, il était bien de passer au clavier. Et c'est pourquoi j'ai proposé au duo de clavier Tomahenko et Vassilena Serafimova de se saisir de la séquence suivante. Alors duo de clavier, puisqu'il y a le piano de Tomahenko et le marimba de Vassilena Serafimova. Tiens, le marimba, est-ce que vous savez ce que c'est, ce grand instrument qu'on pourrait appeler xylophone, mais qui en fait est plus vaste qu'un xylophone? Un xylophone, c'est toujours l'aigu, tandis qu'un marimba, ça prend le grave, le médium, l'aigu, les sons sont peut-être plus veloutés, ce n'est pas tout à fait le même bois, on joue pas avec le même type de baguette, il y a des résonateurs, et cet alliage entre quelque chose qui évoque finalement l'Afrique ou l'Amérique du Sud et le piano classique, le piano bourgeois, est absolument extraordinaire. La pièce que nous allons entendre en premier est une pièce connue, hein, il faut toujours alterner le connu et l'inconnu, on vient d'en parler, puisqu'il s'agit du final de la sonate pour deux pianos en ré majeur de Mozart. Oui, mais alors, pas joué comme d'habitude, hein, arrangé pour le marimba et le piano. Et moi, je trouve ça intéressant parce que dans les pièces pour deux pianos, à l'oreille, on ne distingue pas toujours qui fait quoi. Tandis que si l'on confie l'une des parties de piano au marimba, eh bien l'oreille va parfaitement bien percevoir qui fait quoi, les réponses, les contrepoints quand il passe d'un instrument à un autre. Et c'est vraiment très amusant et très jouissif à écouter. Donc le final de la sonate pour deux pianos en ré majeur de Mozart, transcrit pour piano et marimba par Tomahenko et Vassilena Serafimova.
Thank you.
finale de la sonate en ré majeur de Mozart, mais pas dans sa version originale pour deux pianos, vous l'avez entendu, dans une transcription pour piano et marimba. Au piano, c'était Thomas Enko, au marimba, c'était Vassilena Serafimova. Alors j'espère que vous avez aimé entendre Mozart interpréter de la sorte. Si ça vous a plu, je vous signale que vous pouvez retrouver les trois mouvements de la sonate de Mozart sur le disque Funambule, un disque co-signé donc de Thomas Enko et de Vassilena Serafimova, et paru en 2016 chez Deutsche Grammophon. Et évidemment, ça pose une question que se posent tous les musiciens classiques. Que faire avec le passé? Est-ce qu'on le laisse tel qu'il est, dans son jus, ou est-ce qu'on l'adapte, comme viennent de le faire ces deux excellents musiciens, comme l'avait fait le grand Grieg en son temps, un compositeur norvégien qui avait repris toutes les sonates de Mozart pour en faire des adaptations romantisées pour deux pianos. Enfin, évidemment, après, on se dit, est-ce qu'à force d'adapter, on ne perd pas l'essence de cette musique? Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que je suis trop heureux de voir cette génération de jeunes musiciens qui passent allègrement du classique au jazz, en passant par des pièces inspirées par la musique traditionnelle. Je me rappelle que quand je faisais mes études au conservatoire, nous étions vraiment uniquement dans le répertoire classique. Lorsqu'on entendait dire que l'un de nos anciens condisciples s'était mis au jazz, eh bien, c'était un peu une désolation. Il était comme passé à l'ennemi. Nous baissions le regard et nous retournions sagement à nos partitions de répertoire de Beethoven, de Bach, de Chopin. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Et Thomas Enko, jeune musicien de 30 ans qui fait une très belle carrière, peut aussi bien écrire des concertos pour piano et orchestre, jouer du jazz, qu'imaginer des musiques de films, des chansons. Enfin bref, il fait de la musique tout simplement. Alors bien entendu, nous n'avons pas résisté après une pièce de répertoire. On a voulu les entendre improviser et un des invités de l'émission leur a proposé d'improviser sur du Bach. C'est normal, passe ton bac d'abord. Alors ils ont proposé d'improviser sur un petit fragment de la sarabande en si mineur de la première partita pour violon, mais de le faire en préparant leurs instruments. Qu'est-ce qu'on appelle préparer son instrument? Eh bien, c'est se servir de gomme, de scotch, de partition, de feuilles de papier, voire de pâte à fixe, pourquoi pas, pour modifier le son original des cordes. Donc Thomas et Vassilena ont pris quelques minutes pour préparer leurs instruments, pour mettre un certain nombre de choses sur les cordes ou sur les lames de bois pour modifier le son. Et au bout d'un moment, ils étaient prêts. Et c'est ainsi que nous avons eu cette géniale improvisation à partir de Jean-Sébastien Bach. Je pense que ça a dû bien lui décoiffer sa perruque. Formidable improvisation pour marimba et piano préparé d'après une sarabande en si mineur de la première partita pour violon de Jean-Sébastien Bach par Thomas Enko et Vassilena Serafimova. Alors tout à l'heure, je vous parlais de la nécessité du contraste, de la variation, presque de la rupture de ton dans une émission de télévision. Et c'est pourquoi après ce clavier rythmique, jazzy, iconoclaste en quelque sorte, je me suis dit qu'il n'y avait rien de mieux que la harpe pour en quelque sorte nous reposer l'oreille pour passer des épices du marimba et du piano jazz dans quelque chose de beaucoup plus doux, de beaucoup plus suave. Parce que la harpe, voilà, tout de suite, tout se passe bien. Moi, j'ai toujours cette image que dans un morceau de harpe, il peut y avoir tout ce qu'on veut, mais il ne peut pas vraiment y avoir de grandes catastrophes. Il n'y a pas de grandes tragédies à la harpe. Tout de suite, la sonorité est tellement magique, tellement envoûtante qu'elle nous délivre en quelque sorte de nos soucis.
Thank you.
les merveilleux arpèges, les arpèges ensorcelants de la pièce pour harpe solo La Source, une pièce d'Alphonse Hasselmans, une des pièces les plus réputées du répertoire pour harpe solo du début du XXe siècle, génialement interprétée avec une telle musicalité, une telle finesse par la jeune harpiste Pauline Haas. Alors tout à l'heure, on a évoqué Debussy, Debussy qui adorait la harpe, et Debussy dont, je vous le rappelle, nous célébrons cette année le centenaire de la mort. Il fallait évidemment que Debussy soit présent dans l'émission, et là j'ai pensé qu'une petite comparaison pouvait être intéressante entre la harpe et un quatuor à cordes. Pourquoi ? Parce que la harpe est un instrument à cordes pincées, et qu'il existe certaines pièces du répertoire pour quatuor à cordes où il y a plus de cordes pincées que de cordes frottées, ce que nous appelons en musique des pizzicato, ou pour les puristes qui aiment bien les pluriels italiens en i, des pizzicati, comme vous voudrez. Donc j'ai proposé au jeune quatuor Van Kuyk, qui vient d'enregistrer justement le quatuor de Debussy chez Alpha, de bien vouloir venir sur le plateau de la Zigel Academy pour nous interpréter ce délicieux scherzo, un scherzo léger, un scherzo aérien, un véritable scherzo féerique.
Thank you.
Les rythmes bondissants et les célèbres pizzicato du scherzo du quatuor de Debussy, interprété par le quatuor Van Kuyk. Et une fois de plus, je vous propose de jouer la carte de la rupture. Après cette ambiance un peu belle époque, début de XXe siècle, nous filons maintenant en Italie, dans le sud de l'Italie, pour rejoindre le baroque italien avec une très rythmique, une très entraînante tarentelle. Alors une tarentelle, c'est une danse qui a intérêt à être entraînante, puisque selon la tradition, elle a été inventée pour guérir des piqûres de tarentule. Vous savez, c'est une araignée, la tarentule, qui est très présente dans la région de Tarente, en Italie. Vous voyez où c'est, Tarente, hein ? C'est en haut du talon de la botte. Et alors, les médecins du XVIIe considéraient que quand on est piqué par une tarentule, eh bien, il ne reste plus qu'une chose à faire, c'est à bouger le plus possible. Et quoi de mieux pour bouger que de danser ? C'est l'origine de la tarentelle. Nous écoutons maintenant par l'ensemble l'arpeggiata, une entraînante tarentelle napolitaine signée Athanasius Kircher. Irrésistible tarentelle napolitaine d'Athanasius Kircher, interprétée par l'ensemble l'arpeggiata. Alors il faut maintenant que je vous dise quelques mots sur l'arpeggiata que j'avais invité sur le plateau de la Zigel Academy, parce que l'arpeggiata, c'est plus qu'un ensemble, c'est un véritable univers musical. C'est un des ensembles les plus étonnants que je connaisse. Il a été formé il y a à peu près 18 ans et ils ont déjà fait une quinzaine d'albums, principalement centrés sur la musique baroque du XVIIe siècle. Oui, mais alors, une musique baroque dont ils ont une approche multiples, colorés, mêlant les partitions et l'improvisation. Ce sont un peu, comment dire, les jazzman de la musique baroque du XVIIe siècle. Ils sont placés sous la houlette, sous la direction musicale de Christina Plouard. Christina Plouard, c'est une harpiste qui joue également du théorbe. Vous savez, le théorbe, c'est ce grand luth. Mais alors, il y a, selon les compositions, plein d'autres instruments. La contrebasse, le clavecin, les percussions, la lyra da gamba. Ça, c'est un instrument tout à fait merveilleux, tout à fait suave. Et puis, il y a aussi, vous l'avez sûrement repéré dans ce que nous venons d'entendre, ces solos de cornet à bouquin qui sont joués par Doron. Une sonorité, entre la clarinette et le hautbois, et même le saxophone. On pourrait dire que c'est l'ancêtre du saxophone. Allez, pourquoi pas, nous allons retrouver des solos de cornet à bouquin dans la pièce suivante, qui est une pièce vocale, puisque je vous propose maintenant d'écouter l'un des plus grands tubes de la musique du XVIIe siècle, le Lamento della Ninfa du grand Monteverdi. C'était en quelque sorte le ne me quitte pas de l'époque du XVIIe siècle, et ça va être chanté merveilleusement bien, d'une façon très incarnée, très expressive, très théâtrale même, par la grande soprano Céline Chen.
Bye.
la voix émouvante, la voix captivante de la grande soprano belge Céline Sheen, qui nous racontait en quelque sorte ses problèmes d'amour, ses souffrances amoureuses. Il s'agissait du Lamento della Ninfa de Monteverdi, ce tube du compositeur, la complainte de la nymphe, et elle était accompagnée par les musiciens de l'arpeggiata. Mais je dois tout de suite vous dire que dans l'émission de télévision, la séquence consacrée à l'arpeggiata était placée en début d'émission. Parce qu'une émission de télévision n'obéit pas aux mêmes lois qu'une émission de radio. Une émission de télévision, c'est avant tout un spectacle. Un spectacle télévisuel. Donc on doit mettre en premier ce qu'on a de plus fort, ou du moins de plus spectaculaire. Et puis après, une fois qu'on aura séduit le téléspectateur, c'est un petit peu comme en amour, on peut l'amener un petit peu où on veut. Tandis que dans une émission de radio, c'est différent. Une émission de radio, c'est plus intime. Tenez là, il est 17h, c'est un peu comme si j'étais dans votre salon. Vous m'avez invité à prendre le thé, vous savez, j'adore le thé. Et puis attention, j'espère que vous avez préparé les petits gâteaux avec, parce que je suis très gourmand et que je suis une bouche sucrée. Donc j'imagine, vous m'avez préparé des petits gâteaux, du thé vert, peut-être même deux sortes de thé, pourquoi pas, du thé vert et du thé noir. J'ai le choix, nous sommes ensemble et je vais vous parler de mes découvertes musicales de la semaine. Donc on peut commencer en douceur, il n'y a pas besoin d'un début spectaculaire. Ce n'est pas un spectacle, c'est une conversation intime. Mais dans les deux cas, télévision comme radio, c'est pas mal de terminer de manière un peu dynamique. Et c'est pourquoi je vous propose maintenant une improvisation particulièrement rythmée, une improvisation piano à quatre mains entre Thomas Enko, dont je vous ai parlé tout à l'heure, et moi-même. En fait, c'est arrivé un petit peu par hasard sur le plateau. Il se trouve que Thomas Enko était resté écouter ses camarades et qu'il était là, présent à la fin de l'émission. Alors je me suis dit, eh bien voilà, terminons par une improvisation. Il est venu à côté de moi. Moi, j'ai un petit peu joué dans le piano, vous savez, en bloquant des cordes avec mes doigts, tout en jouant de la main droite. Je bloquais les cordes de la main gauche. Sonorité étouffée qui faisait penser au piano préparé de son improvisation qu'il avait faite un peu plus tôt dans l'émission sur Jean-Sébastien Bach. Et donc, lui, il avait utilisé du patafix sur les cordes. C'est pour ça que vous allez entendre au tout début de cette improvisation qu'il me demande si je veux du patafix, un petit clin d'œil qui fait allusion à son improvisation en duo avec le marimba de Vassilena tout à l'heure. Et puis voilà, c'était parti. Donc je vous propose, de partager avec nous ce moment rare, ce moment de bonheur, ces moments de bonheur comme seul sait en donner l'improvisation. Donc improvisation à quatre mains par Thomas Enko et moi-même au piano.
Tu veux de la pâte à fixe ? Thank you.
Le plaisir et la complicité d'une improvisation à quatre mains en compagnie de Thomas Enko. C'est ainsi que nous avons terminé mon émission de mardi soir dernier, ma troisième Zigel Academy diffusée sur France 2 et que je vous recommande de regarder en replay sur le site de France 2. Vous avez encore 3 jours, notamment parce que vous découvrirez les 6 invités, les 6 célébrités qui étaient en notre compagnie, une sorte de petite classe joyeuse et turbulente à qui je tentais de délivrer les lumières de la musique classique, enfin du moins de les convaincre de faire désormais une place à la musique classique dans leur vie. Il y avait l'acteur et chanteur Agustín Galeana, l'historien et passeur d'histoire Franck Ferrand, la chanteuse Natacha Saint-Pierre, la journaliste et critique gastronomique Nathalie Elal, le chanteur Vincent Niclos et l'animateur de télévision Juan Masseña. Réalisation Laurent Brun, le son et la direction artistique Jean-Pierre Loisil et la production Stéphane Simon pour Télé Paris. Voilà, maintenant je ferme cette parenthèse télévisuelle pour vous donner rendez-vous la semaine prochaine. Donc vous l'avez compris, désormais La Preuve par Z est diffusée toujours le samedi mais à 17h et non plus à midi comme c'était le cas les années précédentes. Donc rendez-vous samedi prochain à 17h et je remercie bien sûr chaleureusement pour la réalisation Anne Weinfeld, pour le son Elisabeth Collet et pour la préparation David Delpech et Dorian Sègre. À la semaine prochaine.